RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG vous saluent. Nous allons débattre, discuter ensemble, bien sûr, comme tous les jours, au 32-16, de 9h à midi, dans cette France qui va suffoquer, cette France qui va crouler sous la chaleur, qui va ployer les épaules, cette France qui va s'éventer, qui va appuyer sur la climatisation aussi. Nos trois GG aujourd'hui dans nos studios climatisés. Joël Dagosséry, la coach de vie. Bonjour Joël.
Bonjour à tous.
Petite robe d'été, les épaules nues.
Oui.
Ma chère,
j'ai voulu encore plus dénuder, mais je me suis dit allons-y progressivement. Prochaine émission, j'enlève le haut.
Nous sommes avec Charles Consigny qui a tombé la veste. Bonjour maître.
Bonjour à tous.
Il l'a gardé la sienne, mais il a une petite veste d'été. Monsieur Emmanuel Debillet, le chef d'entreprise et des nôtres. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous. Petite remarque à l'attention des téléspectateurs et auditeurs fidèles que l'on rencontre en France et en Navarre. Moi, la caractéristique que je retiens, c'est que les auditeurs de ton émission, cher Alain, ce sont des gens très fins, très intelligents, des indépendants d'esprit, qui pensent par eux-mêmes. Et autre caractéristique tout à fait étonnante et harmonieuse, sont des gens tous sympathiques.
C'est vrai. Quoi qu'on puisse, même si on a des opinions divergentes,
oui,
t'as remarqué, le dialogue s'engage toujours
chaleureux,
assez facilement. Donc profitons-en, gardons ce lien, même si on n'est pas d'accord. On peut être d'accord sur nos désaccords et faire en sorte que ça se passe plutôt pas mal.
Oui.
Un petit salut quand même, après ce week-end, au nouveau couple Mariam et Olivier, puisque nous étions de mariage, le mariage d'Olivier Truchot et de Mariam Pirzadeh. Donc on les embrasse, c'était une fête magnifique, c'était la fête de l'amitié, c'était la fête de l'amour. On était en Bourgogne, c'était un régal. Je sais qu'il y en a sur les réseaux sociaux, donc je vous laisse découvrir ça. Et puis un petit salut aussi à deux jeunes filles qui bossent, qui ont relancé un restaurant à Druy, pas très loin de où nous étions, c'est dans l'Yonne, Marjolaine et Magali, l'auberge des sources. Bravo, félicitations, continuez. Et pour tous ceux qui sont dans cette région, allez les voir. Elles se sont lancées dans un beau projet. Elles sont jeunes, elles font une petite cuisine toute simple, abordable, mais bonne. Donc bravo à vous encore les filles, continuez comme ça. De quoi va-t-on parler aujourd'hui dans les GG, dans les grandes gueules? On va revenir sur ce qu'a lancé Charles Consigny, les Français libres. Vous partagez votre vécu de Français dans la vie quotidienne sur le site de Charles. Et depuis qu'il a lancé son opération, ça a l'air de plutôt marcher, plutôt pas mal marcher, on en reparlera. 10h20, le racisme va être un enjeu de la présidentielle. C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il a raison? L'affaire Liana. Le rapport sera remis à 11h au garde des Sceaux et au ministre de l'Intérieur. Mais la question du rapport et des dysfonctionnements, c'est une chose. Mais est-ce qu'il y aura des sanctions? Ça, c'en est une autre. Et là, on peut peut-être en douter. On en parlera à 10h avec vous. D'abord, parlons de ce qui nous préoccupe au quotidien, de ces 4 jours d'enfer là que l'on va vivre. C'est vraiment le mot. La canicule et une France au ralenti.
C'est chaud, hein ? Ça cogne. Ça cogne.
Il fait chaud.
C'est vraiment nos habitudes du quotidien là qui vont être bousculées dans les 4-5 prochains jours, parce que pour le moment c'est quasiment à durée indéterminée. Hein. On sait que ça va aller jusqu'à jeudi. Mais 49 départements, 35 millions de Français qui sont placés en vigilance rouge. Si tu comptes les vigilances rouges et oranges, tu as plus de 60 millions de Français qui vont subir la chaleur aujourd'hui. Le thermomètre va afficher 43 degrés à Bordeaux, 41 à Limoges, 40 à Tours et Toulouse, 39 à Bourges et à Paris. Ça, ce sont les températures qui vont être affichées. Après, il y a ce que l'on va ressentir. Et là, ça pourrait être encore plus fort. Du coup, ces records qui vont être battus, avec une baisse qui n'est pas attendue avant la fin de la semaine, oblige le pays à complètement se réorganiser. 845 écoles et collèges seront fermés aujourd'hui. 1800 autres, ce sont les horaires qui vont être aménagés. Ce qui est incroyable, c'est d'entendre la SNCF déconseiller aux personnes vulnérables de prendre le train. Service public. Là, je vous parle que des services publics. Dans un pays aujourd'hui, vous rentrez dans n'importe quelle boutique ou n'importe quel supermarché, il y a la climatisation. Alors, est-ce que c'est vraiment un aveu d'impuissance pour notre pays? Ou au contraire, vous dites, ben, finalement, on arrive à s'adapter, on fait avec, c'est un peu la débrouille du côté, vous voyez, de l'école, avec les écoles qui seront fermées, on dit aux parents, ben, si vous pouvez garder vos enfants, gardez-les. Bon, là où c'est fermé, bien sûr, ça pose pas de problème. Qu'est-ce que vous en dites, Emmanuel de Villiers?
Ouais, pas grand-chose. On a un temps qui est à peu près celui de l'Espagne.
Qu'on n'y est pas.
Dans une partie de l'Italie. Oui, l'Espagne dont le roi est un descendant de Louis XIV, qui était Philippe, duc d'Anjou, devenu Philippe V d'Espagne au début.
Dès qu'Emmanuel
Picasso, Louis XIV. Au début du XVIIIe siècle. Non, je crois que effectivement, il fait très chaud. Mais il n'y a pas vraiment de commentaire à faire. Il faut faire attention si on a des problèmes de santé.
Et tu penses que notre pays est adapté, notre pays a compris, notre pays sait faire.
J'ai fait mon service militaire en 1989-90 en Guyane. Je logeais dans une chambre où il faisait 30 degrés.
Avec 80% de taux d'humidité.
En tant que chef de section, j'avais une chambre particulière. Et j'ai découvert le fameux ventilateur qui a été inventé comme le frigidaire. Et le ventilateur maintenant est très bon marché, ce qui n'était pas le cas dans les années 50 par exemple. Et il est très très fiable. Un ventilateur, je l'ai vécu encore en Guyane, peut tourner 2 ans sans arrêt, aucun. C'est incroyable comme petit mécanisme, très fiable. La solution, c'est principalement le ventilateur, parce que la climatisation générale pose des problèmes techniques, financiers, de maintenance. Une climatisation, c'est un peu un miracle. Il faut de la maintenance, c'est très coûteux, c'est difficile à installer, ça pose des problèmes esthétiques. La solution, c'est le brasseur d'air, le ventilateur ou le plafonnier, comme du temps de l'Indochine, l'Indochine française.
Oh, mais ça y est, alors, voilà. Louis XIV, dans les colonies françaises.
Et pour redécouvrir que le bilan de la colonisation est globalement positif.
Ici, on en a des gens qui brassent de l'air.
Comment ?
Ici, on en a des gens qui brassent de l'air.
Ça se peut, mais...
Le studio est auto-ventilé par les GG elles-mêmes.
Mais pas suffisamment pour la fraîcheur pendant 3 heures. Est-ce que notre pays est suffisamment adapté et prêt aujourd'hui, Charles Consigny ?
Non, de toute évidence, non. On a glissé, il est vrai, assez vite, et je comprends que ça fasse hurler les écolos, mais c'est un fait. On a glissé très vite de la lutte contre le changement climatique, contre le réchauffement climatique, à l'adaptation au changement climatique. Donc en fait, c'est un aveu. Le vrai aveu, c'est qu'on n'espère plus inverser la tendance. Et en réalité, on sait que si on avait voulu vraiment inverser la tendance, ce qu'il fallait sans doute faire pour l'avenir de l'espèce humaine, il aurait fallu vivre comme on a vécu pendant le Covid, à peu près. C'est-à-dire qu'il aurait fallu clouer tous les avions au sol, limiter au maximum les échanges et que chacun cultive ses tomates, etc. Bon. Ça, on sait qu'on ne le fera pas. Moi, je suis favorable aux politiques écolo tant qu'elles ne sont pas idéologiques, qu'elles sont vraiment utiles, scientifiquement prouvées et qu'elles ont un vrai impact. Toujours est-il qu'on n'est évidemment pas adapté à ces températures, mais surtout, moi surtout, je trouve que il y a beaucoup, beaucoup de surréactions. Et je trouve que dans notre époque de victimes et de fragiles, là, il fait 3 degrés, il y a des gens, ils ont 25 ans, on a l'impression qu'on les envoie à la mine par... tu vois ce que je veux dire? Que les gens âgés, etc., fassent le nécessaire pour se protéger et qu'il faille que nous... contribuons à ce que ces personnes soient protégées. Oui. En revanche, je trouve que pour ceux qui ne sont pas particulièrement exposés, chouiner comme ça chouine depuis 3 jours.
Qu'est-ce qui chouine particulièrement?
Partout, les jeunes. Oh là là. Oh, comment je vais faire pour réviser mes examens? Comment je vais? Oh là là. Comment je vais aller bosser demain?
Les médias. Je vais pas y aller. Jouent un rôle négatif.
Toute la fonction publique, les syndicats en première ligne. On va en parler là sur le congé climatique. Les syndicats en première ligne pour absolument tout fermer. Les écoles d'ailleurs sont fermées naturellement. Alors, ça, comment font les parents?
Tu trouves pas que ce qui est dingue, au pays qui a rendu l'école obligatoire jusqu'à 16 ans,
oui,
au pays de l'instruction, que l'on te dise parce que pendant 3 jours, 4 jours, il fait trop chaud, et alors que l'on le sait, que l'on te dise, on va fermer les écoles, et on dit aux parents, débrouillez-vous.
Je trouve ça dingue.
Effectivement, je trouve ça complètement dingue. C'est pour ça que je parlais de comment est-ce que vous allez faire? Est-ce que c'est, enfin, Ça a de quoi mettre en colère la France, quoi. Dans le pays qui a le record de prélèvements, dans le pays de Voltaire, de Rousseau, de l'école, de l'instruction. Mais si, je suis désolé, Emmanuel.
Non, ça n'a rien à voir. Ne t'en déplaise, cher Alain.
On s'est toujours dit le pays des Lumières, le pays qui rayonne, le pays de l'instruction.
Le pays des Lumières, c'est bon.
Aujourd'hui encore, les Lumières, on les éteint, les Lumières.
Avant que Joël ne s'exprime d'un mot. Alors, les médias ont une responsabilité. C'est vous qui faites monter la température de 10 degrés dans le ressenti.
Bien sûr. C'est toujours la faute des médias. Ça permet comme ça de dégager la responsabilité et que le politique ou certains citoyens se dédouanent effectivement de leur propre inaction, quoi.
Charles, il a lancé un mouvement français libre. Moi, je suis en train de réfléchir à un mouvement aussi de ceux qui souffrent de cet esprit de défaite français. Et je propose à Emmanuel de faire un saut dans le temps, dans le futur, c'est-à-dire au 21e siècle, là où on a des choses, des solutions technologiques notamment, qui vont bien au-delà du petit ventilateur collé au plafond. Voilà. Quand je regarde les solutions qu'on nous propose, c'est fermer les volets, un numéro vert, confinement, esprit civique. Enfin, je parle d'être de merde. On est au 21e siècle. Il y a des solutions qui sont liées à la technologie. Alors j'ai regardé un petit peu parce que je me suis dit forcément ailleurs dans le monde il y a des gens qui savent faire en temps de chaleur. Donc j'ai regardé sur l'Asie notamment Singapour et Tokyo qui ont des étés chauds et humides. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils obligent l'urbanisme par exemple, ils obligent à construire des gratte-ciel qui permettent des couloirs de vent, de sorte à ce que les quartiers soient rafraîchis. Ils obligent du froid souterrain pour rafraîchir les quartiers. À 98%, le pays continue de fonctionner à 98%.
Et le pays est climatisé.
Sous 38 degrés. Mmh. D'accord? Donc, excuse-moi, il y a des moyens technologiques.
Singapour est un pays très riche. Oui. Nous sommes en faillite.
Ah, bah oui, bien sûr. Bah oui, bah parce que nous, on n'est pas la 7e puissance mondiale. Pas du tout. Nous, on ne fait pas. On ne fait pas du Versailles et du G7 et de la Vivatech. Nous, non, pas du tout. On se comporte comme la 278e puissance mondiale. Bah moi, j'en ai marre. Je suis désolée. Franchement, j'ai envie de créer un club de ceux qui en ont marre de cette défaite anonyme, qu'on vienne tous s'asseoir et qu'on se dise je souffre d'entendre des politiques qui me proposent un numéro vert, alors que à quelques kilomètres, il y a des gens qui réfléchissent avec de l'ingénierie. Bah, je suis désolée, j'en ai assez.
La climatisation, c'est du domaine privé. Personne n'interdit à quiconque de mettre une climatisation.
Mais depuis quand, quand on ferme 850 écoles,
c'est pas l'URSS.
850 écoles fermées.
Des trains publics.
Bah oui, des trains. Donc SNCF, qui est une entreprise publique, qui ramasse quand même une masse d'argent.
C'est très compliqué de climatiser.
Ça, c'est pas de l'ordre du privé. Excuse-moi. Et dans d'autres pays, on s'occupe de pas fermer les écoles. T'as aucune école qui ferme au Texas, qui sont à 44 degrés.
Ils ont ce climat depuis deux siècles. C'est complètement différent. Sûr, bien plus haut, après 50 degrés.
Il y a un moment. Je veux dire, est-ce que toi, t'as entendu le président ou le cornu nous proposer un grand plan, un grand plan d'ingénierie?
Je suis favorable, bien sûr, à la climatisation des écoles, etc. Mais je maintiens qu'avec un bon gros ventilateur, vous pouvez parfaitement rendre les températures actuelles supportables. Et donc, par exemple, fermer les écoles, je trouve ça très excessif. Et je me demande s'il n'y a pas, des syndicats d'enseignants, etc., une forme de mauvaise volonté, comme d'habitude. Tout est prétexte. Un coup, il fait trop froid. Un coup, il fait trop chaud. Un coup, il neige. Un coup, ceci, un coup, cela. Il y a toujours une bonne raison de ne pas faire son boulot. Je trouve que ce n'est pas normal.
Après, non, mais c'est le principe de précaution, puisque tu as des salles de classe, malheureusement, dont le bâti n'est plus adapté, où la température monte à 35 degrés dans la classe. Donc, si tu veux, pour les enseignants, ils disent, parents, c'est, non, ventilateur, tu vois, un ventilateur ne suffit plus dans ces cas-là.
Bien sûr, 35 degrés, le ventilateur baisse la perception d'environ 10 degrés. Moi, j'étais pensionnaire à 10 ans en 6e dans un dortoir de 60. On se posait pas la question de savoir s'il faisait froid, faisait chaud, etc., etc. Enfin, ça suffit. On est en train de faire de la France un pays de femmelettes.
Oui, mais est-ce qu'on a le droit d'investir dans des infrastructures? Tu sais qu'investir dans des infrastructures.
On te parle de là, cet été-là.
Oui, cet été-là, d'accord. Cet été-là, c'était aussi l'été dernier. On est au GG depuis pas mal d'années chacun. Cet été-là, c'était aussi l'été dernier. C'était aussi l'été d'avant. C'était aussi l'été.
Donc,
à un moment, je veux dire, c'est pas cet été-là, c'est qu'il y a un problème structurel. On a le droit d'investir dans des infrastructures. Investir dans des infrastructures, c'est aussi faire vivre nos usines. Donc tu vois, c'est un truc qui se nourrit, c'est un truc en cycle, on est en circuit fermé et vertueux. Donc, à un moment, prenons nos responsabilités et investissons dans les infrastructures.
Oui, mais ce qui doit se faire se fera naturellement.
Mais
dépenser à tort et à travers pour 20 jours de canicule alors qu'on est en faillite, c'est rigoureusement impossible.
Non, c'est pas 20 jours de canicule. Regarde, on a eu une canicule il y a 3 semaines et maintenant on sait qu'on en aura tous les étés.
Oui, mais
donc il y a
une adaptation.
Et dans des régions où. Oui, mais à partir du moment où tu as l'installation, elle sert ou elle sert pas, mais l'installation, elle est là, si tu veux. Donc ce que l'on attend. Or là, elle ne l'est pas et on se retrouve obligé à fermer quelque chose qui est indispensable, c'est-à-dire c'est l'école pour les enfants et obliger les parents à s'organiser et à désorganiser du coup même la vie économique. Tu es très attaché à la croissance et à la vie économique, Emmanuel. Tu as vu qu'il y a des rapports qui ont chiffré la canicule, les jours de canicule. Vu la manière dont les chantiers ralentissent ou se mettent à l'arrêt, c'est un coût de plusieurs milliards d'euros pour la croissance.
Et ça, on n'empêchera pas ce genre de répercussions.
Si,
c'est impossible.
Bah, si, parce que justement, si tu gardes les écoles ouvertes et que les enfants vont à l'école, eh bien, t'as des artisans qui pourront travailler à ce moment-là, ne prendront pas de retard dans leurs commandes de leurs clients.
Oui, mais ces rapports sont exagérés. Il y a derrière des lobbies et des gauchistes écolos. Je crois qu'il y en a un qui vient à 11h.
Tu sais que. Mais en fait, Emmanuel, t'es autant idéologisé que les écolos, en fait, parce que t'es pas pragmatique. Je veux dire, quand je cite ces pays-là, ils sont pragmatiques, ils sont pas en train de se demander est-ce qu'il y a des rapports idéologisés ou pas, ou écolo. Ils regardent les températures, 38, 40, 42 sur plusieurs années, boum, on investit dans des infrastructures. On se demande pas si derrière, il y a des lobbies, machin, écolo, etc.
Tiens,
je veux dire, il y a des faits. Les faits, ils sont là.
Et on peut pas climatiser toutes les écoles de France, toutes les gares gigantesques, etc. Soyons sérieux.
Ben, excuse-moi, moi j'estime qu'au nombre le montant d'argent qu'on me pique...
Même les frigoristes l'expliqueraient.
J'estime que quand je mets un pas sur le sol, il y a même de l'air frais qui devrait sortir du sol, tellement on prend d'argent.
La France désorganisée avec cette canicule, 4 jours là où on va atteindre des records de chaleur historiques, vous venez en discuter avec nous, comment vous allez vous adapter, effectivement, manque d'anticipation et aveu d'impuissance pour le pays. Manuel, dans un instant, du côté de l'Essonne, Frédéric, du côté des Hauts-de-Seine, on a un expert énergétique, on aura un traiteur, et puis on regardera ce que veulent installer les écolos, ou plutôt instaurer les écologistes, ils ont lancé une pétition pour obtenir un congé climatique. 32-16 pour en discuter avec les GG, il est 9h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Vous êtes avec les GG, vous êtes avec les grandes gueules. Bien évidemment, vous prenez la parole au 32-16 pour discuter, pour débattre. Là, on est sur cet épisode de canicule dont on ne voit pas la fin. Enfin, elle est prévue. Peut-être, enfin, la baisse à partir de vendredi, mais pendant 4 jours, on va sacrément souffrir. Vous avez entendu les températures, on va avoir 43 à Bordeaux, 41 à Limoges, 40 à Tours. Ce qui va être compliqué, c'est les nuits, puisque les nuits seront très largement au-dessus des 20, 23, 24 degrés. Manuel, bonjour.
Vous êtes à
hier dans l'Essonne, vous êtes expert énergétique. Donc on se dit aujourd'hui quand même de devoir fermer les écoles, de dire aux gens ne prenez pas le train aux personnes vulnérables et d'annuler des trains parce qu'on n'est pas sûr des climatisations. Enfin, c'est quand même dans la 7e puissance mondiale, ça la fout un peu mal. Donc qu'est-ce que vous en dites?
Qu'on est devenu complètement fou. Les politiques sont devenus complètement fous. Des solutions, il y en a. Il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Je vais vous citer 2 chiffres. 3500 morts par an, c'est les violences routières. 4500 morts, c'est les décès liés à la canicule. Et ce chiffre va exploser sur les prochaines années. D'accord ? Je suis frigoriste, d'accord, de métier. Je travaille dans le bâtiment, je fais la rénovation énergétique. Je travaille surtout sur Paris. Quand je vois au dernier étage, les gens sont sous des appartements sous zinc, ardoise, d'accord ? Quand j'entendais tout à l'heure les débats, et bravo Joël, bravo, l'innovation, elle est là. Mais sauf que, en fait, il y a tellement de lobbies que lorsqu'on innove, on est massacré.
Quels sont ces lobbies ?
Les gros industriels. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner simplement une chose très simple. En 2003, j'avais une problématique de logement personnel. J'avais une maison de 1930, il fallait la rafraîchir et l'isoler. Je ne pouvais pas le faire par l'intérieur. J'ai trouvé une solution que j'ai mise à l'extérieur. 7 cm qui lutte contre les bouilloires thermiques et les passoires thermiques aujourd'hui encore plus qu'hier. Ça m'a permis de diviser la facture énergétique à l'époque de plus de 3. D'accord, aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que je travaille. Efficience, c'est mon entreprise. Et je déploie cette solution qui est brevetée. c'est pas avec des produits qui sont nouveaux, hein, c'est simplement une recette. Vous savez, un gâteau. Vous assemblez les ingrédients les uns derrière les autres. Eh ben, la technique que j'ai mise en œuvre, c'est des choses qui existent. Je suis frigoriste. Quand on traite
que
la problématique,
vous maîtrisez en plus,
exactement, comme on entendait tout à l'heure, Monsieur de Villiers en parler du frigoriste, parlons-en. Quand on voit aujourd'hui que même les écologistes Paris, hein, d'accord, le maire qui dit on va mettre des clims partout, mais sait-il que en fait c'est les îlots de chaleur qui va provoquer. C'est-à-dire que ce qui va enlever d'un côté parce qu'on est mal isolé, personne ne comprendrait qu'en hiver on chauffe avec les fenêtres ouvertes, on est d'accord.
Oui, mais ça peut faire partie d'un tout, Emmanuel. Vous voyez, c'est là où j'étais pas d'accord avec Emmanuel de Villiers, plutôt en phase avec Joël, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a des rapports qui nous disent ce qui va se passer. Alors après, on peut les contester, les discuter, etc. Mais les faits montrent quand même qu'on est dans une transformation du climat. Après, on peut débattre de la cause, de pourquoi le climat se transforme. Mais c'est pas comme si en France, on n'avait pas une administration surpuissante, ou plutôt importante. C'est pas comme si on avait, voyez, eu pendant quelques années, rappelez-moi comment ça s'appelle, un haut commissariat au... plan. Ah oui, M. Bayrou, il a rendu un rapport sur la santé mentale. Exactement. Parlons-en, peut-être de la sienne d'ailleurs en particulier. Mais vous voyez, on aurait pu déjà... Bah, vous l'avez rencontré, mais on aurait pu se dire... Non mais vous voyez, on aurait pu se dire, nos bâtiments publics, les écoles, parlons-en avec les mairies, les départements et les régions, puisque les mairies, les départements et les régions se partagent la rénovation des bâtis. Vous voyez, on aurait pu se dire, bah, ça peut être un enjeu pour la France, à moyen terme, à court terme, en investissement, mobilisons les forces vives du pays, comme vous, les frigoristes.
Bah, voilà, c'est... Pardon, j'ai envie de hurler à la terre entière. Ils ne veulent pas. Pourquoi ? Parce que là, concrètement, parce que je suis un tout petit, j'ai une solution qui est brevetée, qui est 100% française, qui n'est pas un produit qui n'existe pas. Il existe, ça fait 23 ans qu'il existe. Le CSTB vient de faire un truc extraordinaire, c'est l'organisme qui certifie les composants pour le bâtiment. Ils ont une journée qui était le 2 juin, ils ont posé le constat suivant, écoutez bien, c'est surréaliste. Le directeur qui est parti, il a dit, on a un constat d'échec qui fait que depuis 10 ans, moi je me rends compte qu'aujourd'hui on ne connaît pas l'ancien dans ce pays.
Ouais, mais oui,
c'est un vrai sujet. Et
oui,
moi,
vous avez raison,
je suis frigoriste, d'accord ? Qui suis frigoriste, qui connais ce métier.
Quatrième,
et derrière, il y a des solutions. Des solutions, il y en a. Sincèrement, ce qu'il faut, c'est commencer par isoler. Enfin, il n'y a pas besoin d'aller très 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 loin. Ça ne coûte pas cher. Et qu'on ne dise pas oui, mais non, mais ça coûte cher. Non, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un système où il faut des appels d'offres publiques pour des solutions qui sont normées, qui sont complètement hallucinantes. Le biosourcé, c'est très bien pour l'hiver.
Ouais, mais c'est ça en fait.
C'est une pile.
Manuel, le cœur du problème, c'est ça en fait. C'est l'administration, c'est la lenteur administrative, c'est comment on fait, comment est-ce qu'on peut accélérer aujourd'hui en France et faire en sorte de pouvoir avoir des circuits de décision qui soient courts et qui soient efficients, quoi. Joël Dagosséry, je remercie Emmanuel d'avoir été avec nous. Joël.
Ah, on sait que c'est l'administration qui bloque. Enfin, si tu entends les professionnels de terrain, en tout cas qui sont en lien avec l'administration publique, ils t'expliquent à chaque fois qu'ils ont la solution. Donc vraiment les experts sur le terrain, les privés, ils ont la solution et certains même les proposent à nos institutionnels et ils font la sourde oreille. Il y a des questions de budget et il y a des questions de rotation, c'est-à-dire que tu dialogues pendant 6 mois avec un gouvernement ou avec un cabinet ministériel et puis hop, ils changent. On recommence tout à zéro. Enfin, c'est à se casser la tête contre les murs. Donc, il faut plus d'agilité. Il faut tout ouvrir. Enfin, comme il a fait pour Notre-Dame de Paris. Enfin, je veux dire, c'était génial quand on
nous. Tu sais pourquoi pour Notre-Dame de Paris? Parce qu'on a confié ça à un militaire et au privé. Voilà pourquoi c'est allé vite avec un enjeu en disant voilà, on a donné une date. On veut que ce soit prêt pour les Jeux Olympiques. Qui s'en occupe? Un militaire. D'où est venue la plus grande source d'argent?
Beaucoup d'argent, hein.
Oui, mais
beaucoup d'argent privé aussi.
Il y a eu aussi beaucoup d'argent privé. Depuis la canicule de 2003, on s'est focalisé sur les EHPAD, sur les personnes âgées. Et encore aujourd'hui, on s'aperçoit que bon nombre d'hôpitaux ne sont pas climatisés, qu'on a simplement voulu faire une pièce fraîcheur. Donc, tu vois, je regardais la une du journal Libération aujourd'hui, c'est faut-il politiser la canicule? Oui, c'est une affaire politique peut-être au niveau des enjeux mondiaux, mais surtout libérons la prise d'action et la prise de décision, quoi. C'est surtout ça que l'on attend aujourd'hui.
Un ensemble collectif, c'est très difficile. Je prendrai l'exemple des palaces en France, que je ne citerai pas précisément, mais qui ont eux-mêmes, malgré des moyens très importants. Je citerai la Baule, par exemple. Malgré des moyens très importants, ont des grosses difficultés techniques pour climatiser. C'est très difficile de climatiser un immeuble existant. C'est bien beau d'en parler comme ça. Mais...
Frédéric, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir patienté, Frédéric. Et vous, qu'est-ce que vous en dites alors aujourd'hui?
Bah, je suis pas toujours d'accord avec Joël, mais là, sur ce coup-là, bravo, hein, je dois que applaudir.
Vous venez travailler dans une fournaise, vous, en plus, là?
Ah ouais, alors moi, il y a deux sujets, hein, puisque l'école de ma fille, forcément, ça y est, c'est restriction. L'école a été
rénovée. Elle est fermée? Elle est fermée, l'école, ou pas?
Non, elle est pas fermée, mais les parents amènent des ventilateurs pour une école qui a été rénovée il y a 3 ans. Il y a 3 ans, le réchauffement climatique, ça existait pas, bien entendu, hein, on n'en avait pas entendu parler. Donc ça, déjà, c'est une aberration, effectivement. C'est une lenteur administrative, c'est une aberration administrative. On paye, on est taxé partout.
Frédéric, attendez, Frédéric, vous pouvez répéter ce que vous venez de me dire? Ce sont les parents qui apportent les ventilateurs?
Exactement, très bien, ouais. Tout à d'accord. fait, c'est les parents qui amènent les ventilateurs pour que les enfants n'ont pas trop chaud à l'école.
C'est très bien.
Oui, et nous, on se mêle de la guerre en Ukraine pour prendre une bombe atomique, ça sera d'une autre gravité.
Moi, je suis d'accord, ce sont les parents qui apportent les ventilateurs, mais enfin...
Le vrai pragmatisme, c'est quand tu
rénoves une école... C'est pas à l'école déjà d'être, de s'équiper, ans, de faire en sorte que tout fonctionne.
De sorte à ce qu'elle tienne pendant la canicule, quoi.
C'est n'importe quoi. Et quand on nous dit « la France s'arrête », moi, je suis traiteur événementiel. Alors, autant vous dire qu'en ce moment, du barbecue et du brasero, on refuse du boulot tellement on en déborde. Le brasero, il bien, est à 300 degrés. Il fait 40-45 degrés. Là, on cuit à chaque fois. Eh ben, on s'organise. On travaille plus en noir, on travaille en blanc, en écru, par des chapeaux. On prend beaucoup de packs d'eau. On donne des consignes aux équipes. Vous buvez régulièrement. On se met à l'ombre. Et on s'arrête pas. Enfin, c'est quoi ce bazar? Mis à part les travaux publics où ça a toujours été comme ça. Parce que, voilà, je peux comprendre qu'effectivement, poser du bitume par 45-50 degrés, voilà, il n'y a pas de souci. Mais il y a plein de métiers, comme Joël disait. Ah, ça y est, il fait très chaud. Alors, comment on va faire pour aller travailler? Non, mais on fait comment, alors, dans 10 ans? Comment ils font dans certains pays?
Bah, c'est parce que, vous voyez, en France, on préfère interdire ou fermer. Voilà, au moins, c'est plus simple et plus personne ne fait face à ses responsabilités,
c'est la
vous comprenez?
De la facilité.
C'est la facilité, c'est on ferme ou on interdit.
Voilà, oui. Exactement.
Oui, mais Frédéric, vous êtes surprenant parce que vous aviez l'air de critiquer fortement le fait que les parents amènent des ventilateurs.
Non, et de l'autre côté. Moi, je le fais moi-même, mais c'est pas normal.
Bon. Bah très bien, donc moi je suis tout à fait d'accord avec. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et on peut citer une autre zone géographique de l'Europe, Athènes, la ville d'Athènes. C'est torride, c'est encore plus chaud et c'est tout le temps. Et les Athéniens, ils vivent.
Mais c'est ce que je te dis. C'est bien le problème, c'est que nous, pour 4 jours, on ferme, on interdit, on déconseille et on dit ne faites pas. Alors qu'on devrait depuis s'adapter. Si tu équipes tous les bâtiments, si tu en as besoin, tant mieux. Tu sais qu'à ce moment-là, le pays peut continuer de fonctionner. Si tu n'en as pas besoin, c'est pas grave. L'équipement est là. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, tu te retrouves à demander à des centaines de milliers d'enfants de ne pas aller à l'école. Et tu désorganises aussi le quotidien des parents. Tu as un service public, tu es le train, tu es endetté. Tous les Français payent pour le train. Et tu te retrouves à dire aux personnes vulnérables, ne montez pas dans le train. Personnes vulnérables qui ont peut-être besoin de se déplacer pour des raisons vitales, des raisons personnelles peut-être importantes. Oui. Et tu leur dis, montez pas dans les trains parce qu'on n'est pas sûr, il va peut-être s'arrêter au milieu de la voie, il va peut-être rester coincé 6 ou 8 heures et vous risquez de claquer. En fait, c'est ça qu'on te dit. C'est aberrant.
Mais ce sont des dirigeants publics trouillards et qui ont une communication, de couilles molles.
Mais regarde, t'as des rails qui ne sont pas adaptés à la chaleur, t'as des caténaires qui se dilatent. Pourquoi? Parce que depuis des années, on n'a pas investi sur les infrastructures, tout simplement. Et hier, je pensais à ça. Je me suis dit, mais attends, les rails, ils se dilatent. Enfin, c'est de l'acier, donc c'est de l'acier à l'ancienne. On a eu des entreprises de sidérurgie qui ont fermé en France. T'imagines si l'État avait investi massivement dans la réfection des rails, etc. Ils auraient rempli le carnet de commandes de d'Ayange ou je ne sais où, de Déo Fournée, exactement. Et donc, cette entreprise continuerait de vivre. On aurait des rails qui fonctionnent comme au Japon, jusqu'à 60 degrés. Et voilà, terminé. Mais penses-tu, c'est tellement compliqué d'avoir une vision, c'est tellement compliqué d'avoir du courage politique, c'est tellement compliqué de se désengager financièrement de certains domaines pour mettre l'argent là où l'État devrait le mettre. C'est trop compliqué pour la France, ça. Donc continuons avec les ventilateurs, les éventails, les confinements, et jusqu'au 22e siècle.
Il y a une autre idée, c'est l'idée politique, ce sont les écologistes qui le disent. ils ont lancé une pétition pour réclamer la mise en place d'un congé climatique. Et je remercie Frédéric d'avoir été avec nous. Congé climatique de 5 jours par an pour pouvoir protéger de la canicule les travailleurs qui sont exposés. Alors après, il faudra définir ce que c'est qu'un travailleur exposé. Est-ce que tu signerais cette pétition, mon cher Charles?
Non, congé climatique. Bien sûr que non. Je pense qu'on a assez de congés en France. Et encore une fois, autant beaucoup d'entreprises s'adaptent déjà sans avoir besoin du congé climatique. On ne fait pas faire aux gens des travaux par 40 degrés, etc. Évidemment que les boîtes s'adaptent. On n'a pas attendu Madame Tondelier pour ça. Mais moi, je persiste à penser que ce refus du travail, cette paranoïa par rapport au travail, nous plombe collectivement, durablement. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on n'a pas les moyens de s'adapter au changement climatique, de financer tout ce dont on a besoin en France. C'est parce qu'on travaille plus suffisamment. Donc je pense que c'est une mauvaise idée et qu'il faut au contraire aller sur un chemin inverse.
Joël.
Non mais il faut les bannir ces gens. Enfin, je veux dire, en France on peut pas tout régler soit par une taxe, soit par un congé. Mais surtout à gauche, ils ont une solution, c'est soit une taxe, soit un congé. Enfin, on a besoin de travailler, Charlie l'a dit, on a besoin de travailler, on n'a pas besoin d'aller. Mais pourquoi on ne ferait pas dodo toute l'année? Enfin, je veux dire, à ce rythme-là, mais qu'on fasse dodo du matin au soir et puis qu'on soit payé je ne sais comment. Enfin, je veux dire, on ne peut pas juste se mettre en congé parce qu'il fait chaud. Les entreprises. En plus, le truc, c'est que c'est une sorte de sanction universelle, c'est-à-dire congé, 5 jours pour tout le monde. C'est en fonction des secteurs, en fonction des entreprises. Les gens sont intelligents, ils vont pouvoir s'adapter. Enfin, stop, quoi.
Emmanuel,
oui. Je rejoins tout ce qui vient d'être dit. C'est totalement irréaliste. Il ne faut jamais avoir mis un pied dans une entreprise pour imaginer quelque chose comme ça. Moi, j'ai eu sous ma responsabilité des multiples ateliers qui étaient plus ou moins mal isolés, parfois anciens, où il faisait très chaud tel qu'en ce moment. Eh bien, on donne de l'eau. Encore une fois, ce sont les ventilateurs, les circulations d'air qui changent la perception. Des tenues adaptées, très légères. On aménage les horaires en début de journée éventuellement. Et je ne connais aucun dirigeant de PME en particulier qui force des gens comme des bêtes de somme.
On est d'accord.
Il n'y a pas besoin de congé climatique. Il y a déjà un truc syndicaliste néo-communiste qui s'appelle le droit de retrait, qui est un véritable scandale, qui est comme les déserteurs de 1917. Alors en plus, il faudrait maintenant un congé climatique. Non, c'est aberrant. Et comme le vient de le dire Joël, ça laisse entendre la petite musique que finalement l'argent vient de, y a pas besoin de travailler et qu'on peut faire ce qu'on veut dans la vie.
On a posé la question, tiens, le congé climatique dans le pays quelques jours par an. Non, mauvaise idée à 82%. Juste avant d'aller sur le on s'en fout pas, les amis, n'oubliez pas que la France joue ce soir. C'est le deuxième match des Bleus, c'est contre l'Irak, c'est à 23h. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Et je vous rappelle que la semaine dernière, la prime de match de 67 000 euros a été gagnée en direct sur RMC. Donc on remet une prime de match qui s'enrichit de 500 euros par but marqué. Et c'est parti, 30 000 euros d'ores et déjà, ça c'est la prime de départ. Ensuite 500 euros par but marqué. On peut peut-être compter sur les Bleus pour bien la faire grossir ce soir. Pour la gagner, cette prime de match, il suffit d'envoyer but par SMS au 732-16. But par SMS au 732-16. Vous vous inscrivez et puis ensuite c'est le tirage au sort. Et si vous donnez le montant exact de la prime de match, elle est pour vous et nette d'impôt. Il est 10h20, vous êtes avec les Grandes Gueules en direct sur RMC, la radio et RMC Story, la télé.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
C'est RMC Story, les Grandes Gueules avec vous, bien sûr, au 32-16. Il est 10h moins le. Dago Seri et Emmanuel De Villiers sont là. C'est parti pour le on s'en fout pas.
RMC, les Grandes Gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Inès Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Une fête de la musique sans incident majeur. 4 800 policiers étaient mobilisés à Paris hier soir notamment, hein, car Laurent Nunez craignait que la canicule échauffe les esprits. Mais écoutez, tout s'est relativement bien passé en France. Pas d'émeutes ni de violences urbaines majeures. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Joël, Charles?
On ne s'en fout pas.
Emmanuel.
On s'en fout pas.
Joël.
Micro. J'y ai pas participé cette année. L'année dernière, je m'étais assez bien baladée. C'est vrai que j'ai eu peur de la chaleur et de la foule. Alors, j'ai vu quelques vidéos.
Des jeunes, t'as eu peur des jeunes?
Non, pas des jeunes. J'aime bien, moi. J'aime bien être avec les jeunes. Non, j'ai vu quelques vidéos et c'est vrai qu'il y avait foule. Ma fille, elle est sortie hier soir. Elle est rentrée 3 heures après.
Avoue que quand ta fille t'a dit j'y vais.
Ah oui, je lui ai dit, écoute, tu me dis, à chaque fois que tu te déplaces, tu m'envoies un message. Voilà. Je veux savoir pour mettre près où tu es. Donc, elle a bien respecté parce qu'elle est partie à Montmartre, puis après, elle est partie sur les Quais de Seine, puis après, elle est partie aux Tuileries. Enfin, elle a fait tout un parcours. Mais elle m'a dit que c'était tellement plein sur les quais. Elle m'a dit, je sais même pas comment les gens sont pas tombés à l'eau parce que c'était, mais en tout cas, ce qu'il faut dire, et les autorités apparemment étaient préparées.
Est-ce qu'on a dramatisé ou
oui,
pas?
Oui, complètement. Mais les autorités ont bien réagi, manifestement. Voilà, parce que là, maintenant, la fête de la musique, c'est devenu très international avec TikTok, etc. On a beaucoup d'anglais, c'était rempli d'anglais partout. Oui,
le problème souvent c'est un peu ça, c'est-à-dire que comme ça n'existe pas en Angleterre, les Anglais viennent ici pour se lâcher
complètement,
et ça peut provoquer parfois des débordements d'ailleurs.
Là, ça s'est bien passé. Il y avait des Italiens, il y avait des Allemands, j'ai vu des Allemands partout. Enfin, c'est devenu vraiment l'attraction de l'année. Donc c'est bien, les autorités ont bien géré. Voilà, faut être content.
Tant mieux. Emmanuel a parcouru Paris hier pour regarder comment ça se passait la fête de la musique.
Oui, je suis rendu place de la République pour ce fameux concert incroyable mêlant politique et musique. Il y avait beaucoup de monde. J'ai jamais
vu. On t'a reconnu ou dans ta vie une casquette?
Oui, j'étais un petit peu dissimulé.
Noyé dans une barbe.
En éléphiste.
Des grimaces.
Non, j'ai jamais vu ça de ma vie. Boulevard Saint-Martin. Une foule mais colossale, des dizaines de milliers de jeunes partout, parce qu'après il a fallu s'extraire et j'ai mis très très longtemps à retrouver une situation où on pouvait marcher normalement. Une excitation, c'était électrique. Si je dis la vérité, conformément à notre émission, c'était quand même 80% de personnes très jeunes et selon la formule consacrée, issues de l'immigration. Avec une ambiance vraiment impressionnante.
C'était des jeunes français.
Bien sûr.
Oui. La précision n'est pas utile.
Une ambiance tellement électrique qu'on peut se demander quand même comment, effectivement, il n'y a pas eu d'incident. Ça tient du miracle quand j'ai vu à 21h cette foule, mais colossale. Et d'ailleurs, les médias relatent qu'il y avait encore plus de monde que les autres années.
Charles.
Alors, moi, j'ai simplement traversé de la gare de Lyon jusque chez moi. Mais ça m'a permis de prendre le pouls. Moi, franchement, je trouve ça très sympa, à vrai dire. La fête de la musique, c'est une espèce de boîte en plein air. Je vois bien que des jeunes arrivent de toute l'Europe maintenant, depuis qu'il y a Instagram qui documente ça. Il se passe le mot dans toute l'Europe. Et franchement, je suis d'abord content qu'on laisse les gens se baigner dans la Seine, dans le canal Saint-Martin. Ouais. Bon, c'est eux qui gèrent les conséquences, mais qu'on soit pas chiant et con sur ce plan-là, ça me paraît déjà une bonne chose. Ensuite, que tout ça se passe bien, effectivement, je ne peux que m'en réjouir, mais je trouve que c'est très sympa et c'est devenu presque une espèce de phénomène culturel très propre à Paris.
Il y en a partout en France, hein, les fêtes de la musique.
Oui, très propre à la France. Oui, mais à Paris, ça se concentre quand même, si tu veux, tu peux faire. Non. C'est comme si tu faisais 4 boîtes de nuit dans la soirée.
Ah oui, mais pareil dans les grandes.
En tout cas, dans toute la France, je trouve que c'est très. Voilà.
De la fête de la musique, Anaïs.
Mais oui, la fête de la musique était aussi célébrée hier soir à l'Élysée, comme le veut la tradition. Le DJ n'a pas pu s'empêcher d'ailleurs de jouer le remix du célèbre For Sure d'Emmanuel Macron sous les yeux du président de la République, évidemment, qui semble apprécier.
For sure, for sure.
On a le son. Oui, on a le son, on y va.
Envoie l'ordi. Like Europe, which sometimes is too slow. For sure. And needs to be reformed. For sure. For sure. For sure. For sure. And needs to be reformed. For sure.
Voilà. Est-ce qu'on s'en fout ou pas,
avec
Charles?
Emmanuel Macron très satisfait qui se marrait en regardant le DJ.
Qui a apprécié. Charles, tu t'en fous ou pas?
Ah non.
Joël.
C'est sympa, mais on s'en fout.
Emmanuel.
On s'en fout pas.
Emmanuel.
Moi, personnellement, je maintiens l'opinion qui n'est peut-être pas communément partagée, que l'Élysée est un sanctuaire et qu'il ne devrait pas y avoir une manifestation de cette nature, même si elle est sympathique et réussie, dans la cour de l'Élysée. L'Élysée avec le PC Jupiter, l'Élysée, le cœur de l'État. Enfin, c'est irresponsable. Et le président est le propre spectateur ébahi d'une caricature de sa politique. Il n'y aura que la fin de triste et l'absence du résultat.
Ah, mais toi, t'es fan de Trump. Lui, il fait des combats de catch ou de boxe.
Ne mélangeons
au
pas
au sein
tout.
De la Maison Blanche.
Non, c'est tout aussi inadapté. Mais encore une fois, le président l'a fait un exercice juvénile. Mais les résultats de ces 10 ans sont tellement catastrophiques qu'il devrait être à son bureau à travailler.
Charles.
Je trouve ça sympa, voilà. Y a pas...
L'Élysée est un sanctuaire ou pas ?
Non, pourquoi pas faire ça ? De toute façon, le problème, si tu veux, c'est que dès lors que tu organises un quelque chose d'aussi jeune, disons, que la fête de la musique dans un endroit aussi vieux que l'Élysée, forcément, ton truc est un peu ringard, fatalement, je dirais. C'est courir le risque de faire un... Sauf si vraiment tu fais venir quelqu'un de très 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 pointu qui te met un truc de dingue. J'ai pas l'impression qu'ils avaient fait ça. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu un concert de Marc Lavoine. Donc bon, voilà. Moi, à leur place, j'aurais pris peut-être un artiste un peu plus pointu. Pour le coup, quitte à le faire à l'Élysée, autant vraiment faire le concert hype de la fête de la musique.
On retiendra Rostropovitch au pied du mur de Berlin. De tout ça, on ne retiendra strictement rien. Si ce n'est la faillite.
Un petit dernier, Anaïs.
Bon, les GG, premier gros meeting de campagne de Bruno Retailleau. C'était samedi soir au Parc Floral de Paris. L'ancien ministre de l'Intérieur qui veut remettre la France à l'endroit. C'est ce qu'il dit, Joël. Tu t'en fous ou pas ?
On s'en fout pas.
Charles ?
On s'en fout pas.
Emmanuel ?
Non plus.
Emmanuel.
Alors, c'était un très grand meeting que j'ai regardé à la télévision. Il y avait 6000 personnes, tout à fait important comme ambiance, comme intensité aussi de soutien, avec une base militante spectaculaire, assez inattendue. On pensait que les LR n'avaient plus de structure, mais manifestement, c'est pas le cas. Il y avait aussi beaucoup de personnalités, contrairement à ce qu'on avait dit, en particulier Boualem Sansal, qui a exprimé un soutien explicite, chaleureux et personnel au candidat Retailleau. Et quant à ce qu'il a proposé, c'est assez puissant et novateur. Il a dit, je veux renverser la table, je veux supprimer le principe de précaution, je veux supprimer toutes les normes qui nous étouffent, en particulier les TPE et les PME. C'est un candidat sérieux.
C'est puissant et novateur, Joël.
Bah écoute, j'ai pas été dans les détails autant qu'Emmanuel. Il est clair que la France a besoin d'être mise à l'endroit. Maintenant, est-ce que c'est dans le sens dans lequel M. Retailleau l'entend ? À voir. Moi, ce que je vois, ce que je constate, c'est que en termes de chef de parti, parce que il faut quand même remettre son propre parti à l'endroit, quand même, ce qui serait bien. Donc j'attends de voir si lui, il arrive à remettre son propre parti à l'endroit. J'ai pas l'impression qu'il soit très fédérateur à droite, vu qu'il y a le nombre de candidats. Donc voilà, on va attendre. Charles.
Non, je pense que c'est quand même un joli coup d'avoir eu Boualem Sansal, mais bon, c'est pas avec ça non plus qu'on lance une campagne présidentielle. Je pense que ce qui est, sans vouloir faire de mauvais esprit, ils ont une structure. Ils ont de quoi faire des choses. Et je trouve que tout ça manque un peu de souffle, de jeunesse, de créativité. Tout ça reste extrêmement classique. Et je crains que ce ne soit pas comme ça qu'on...
C'était l'image de Bruno Retailleau.
On soulève les foules.
Sans faire un jour au ministre de l'Intérieur.
Non, mais dans ce cas-là,
ça manque un peu de souffle, que ce soit très classique.
Il faut
Bruno Retailleau est quelqu'un d'assez classique. C'est pas du... Quand il arrive, tu sens pas un élan derrière Bruno Retailleau. C'est pas Nicolas Sarkozy à son époque.
Regarde ce que fait la France Insoumise.
Bah, il y a un élan, il y a un souffle.
Le foot de Mélenchon, le grand meeting à Saint-Denis, le concert, très, très bon coup politique, le concert à la fête de la musique Place de la République, excellent. Idée politique. Il faut reconnaître les choses. Là, on sent, si tu veux, que tu as des gens qui se font du jus de cerveau et qui se demandent qu'est-ce qu'on pourrait faire, qui surprennent un peu et qui rendent notre beefsteak attrayant, si tu veux. Alors que là, je trouve qu'il y a une espèce de paresse marketing, en fait, du côté de nos amis.
Oui, mais c'est un tout début de campagne, c'est un amorçage.
Faut qu'ils fassent gaffe.
En tout cas, ça donne l'image d'un candidat pour le moins sérieux, qui n'a pas de casserole, qui se présente pas comme un sauveur, mais comme quelqu'un qui va pouvoir trouver des solutions concrètes.
Oui, mais c'est pas quelqu'un après son meeting où tu dis tiens vivement la suite. Ouais. Voilà, c'est le problème. Alors peut-être que je dis ça correspond à l'image et à ce qu'il est aujourd'hui Bruno Retailleau. La deuxième heure des GG dans un instant. L'affaire Liana, rapport remis aujourd'hui. Les dysfonctionnements, ils sont pointés, mais est-ce qu'il y aura des sanctions ? 32-16 pour en discuter avec les GG.
RMC 9h midi. Les Grandes Gueules.